Vous verrez que ce que j'ai à partager avec vous ce matin va dans la suite de ce qui a été dit par Pierre et puis partagé aussi par Richard. Le texte que j'ai choisi se trouve dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 21. Et je vous invite à le lire avec moi. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ce texte nous invite à méditer sur ce que nous faisons ici ce matin, le dimanche. Et on entend souvent dire « je suis croyant, mais pas pratiquant dans notre société », ou alors « je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église ». Et ce ne sera pas la question d'aujourd'hui, mais on peut se poser la question, pas d'une manière, je dirais, accusatrice, mais est-ce qu'on peut vivre une vie chrétienne sans se réunir avec les frères et sœurs à l'église? Qu'est-ce qu'on vient faire ici chaque semaine? Que cherchons-nous à établir en nous réunissant régulièrement dimanche après dimanche? Qu'espérons-nous devenir en faisant cela? Et dans ce passage, on peut mettre en évidence plusieurs choses dont il faudrait se rappeler à chaque fois qu'on se réunit, en fait. Alors, je ne suis pas dans le... Le premier verset, c'est « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Et j'ai mis « être des gens qui réfléchissent ». Et c'est vrai qu'ici, on est souvent assis, de temps en temps, on se met debout pour chanter un cantique, et parfois, ça peut sembler bien ennuyeux quand on suit pas. Et moi, je me souviens, étant enfant, je me suis vraiment beaucoup ennuyé à l'église, parce que je suivais pas. J'étais... Là, je me souviens, j'étais assis avec Pierrot et on s'amusait bien tous les deux. C'était le bon moment que je passais avec Pierrot, mon compagnon. Et ça me laisse là de bons souvenirs. Mais ce n'était pas toujours le souvenir d'être... d'écouter la parole. Ce matin, on a beaucoup écouté. Vous allez devoir écouter encore un petit peu. Alors, je vous demande un petit peu d'attention. Paul nous enseigne... de prendre garde. Et c'est quelque chose qui nous demande de le faire de manière volontaire, à la manière dont nous vivons. Je dois prendre garde à la manière dont je vis. Et dans notre traduction, dont nous nous conduisons, ou encore dont nous marchons dans la vie. Et il nous invite à y réfléchir. À réfléchir à ma vie. Pierre, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Es-tu toujours cohérent avec tes idéaux? Et que comptes-tu faire pour y remédier? Depuis que nous sommes entrés dans cette salle ce matin, il y a deux nouvelles. Il y a une bonne nouvelle et puis une mauvaise. La bonne, c'est que nous avons devant nous toute une nouvelle semaine, avec des possibilités innombrables de servir Dieu, des occasions qui nous seront présentées de le servir, de présenter sa parole, de voir son royaume s'établir, de voir la justice de Dieu dans ce monde s'établir. On va voir des choses peut-être extraordinaires qu'on n'a même pas osé rêver arriver. Alors que vous marchez dans la semaine, c'est peut-être ce qui s'offre à nous dans cette semaine. Une perspective. Alors, je vois les mines. Ouais, demain c'est lundi. Et je dis souvent, le demain c'est lundi, et ça réjouit pas grand monde que demain c'est lundi. Pourtant, il y a quelque chose, une journée nouvelle, le soleil va se lever demain, et ça va être une nouvelle semaine. Et ça peut être, selon vous, une semaine extraordinaire. Quelque chose qui va vous changer encore et encore. La mauvaise nouvelle, c'est que votre route est jalonnée de mines. Et la semaine qui nous attend est pleine de tentations, de toutes sortes de déceptions. Elle est pleine de crises, peut-être personnelles, de difficultés financières, d'hostilité de votre entourage. On doit faire attention à chacune des mines qui est là et qui est capable de nous détruire, de nous faire parfois même exploser, de pouvoir briser des relations qu'on a mis des années, des dizaines d'années à construire. Attention à la manière dont vous marchez. Prenez garde à la manière dont vous marchez, dit Paul. Et il y a plein de choses pour lesquelles on fait attention. On fait attention, on sait exactement où est le portefeuille. On fait attention, on a rangé sa carte de crédit, ses papiers de voiture. On fait attention si on a le frigo est plein. On fait attention à sa carte bancaire. On fait attention à si il y a de l'essence dans la voiture. Oui, on fait attention à toutes ces choses. Mais Paul nous encourage à faire attention, à nous conduire non comme des insensés, mais comme des sages. Qui va prendre sa voiture sans regarder s'il a suffisamment d'essence pour arriver au bout? Ouais, il y en a certains qui le font. Mais bon, pas tout le temps quand même, pas tout le temps. Il nous arrive des difficultés, des épreuves dans l'existence, mais ce n'est pas tant pour que Dieu teste notre fidélité envers lui, pour savoir si nous sommes capables de rester forts quand c'est dur, la vie. Mais c'est plutôt une occasion pour nous de tester la fidélité de Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, nous dit Paul. Et il s'agit moins ici du temps en général ou du bon emploi de son temps à faire, plutôt que dire bon, il faut racheter le temps, donc il faut bien que j'emploie mon temps, faut que j'organise toutes les choses, faut que voilà, j'ai un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour ça. Non, bah, j'ai essayé, je tiens pas très longtemps comme ça, et ça m'apporte pas beaucoup de satisfaction finalement. Beaucoup de déceptions de moi-même et puis des choses que cela m'apporte. Il faut s'organiser dans la vie, c'est sûr, mais c'est pas ça qu'il est en train de dire quand il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Les temps difficiles, les jours mauvais, c'est une occasion de voir se manifester la fidélité de Dieu envers nous. Son amour, sa puissance, sa patience. L'évidence que Dieu est dans notre vie, qu'il appartient à cette existence avec nous, qu'il marche avec nous. Si vous n'avez jamais enduré des temps de stress, de pression, voire même de dépression, comment pourriez-vous connaître l'incomparable paix qui est d'être avec le Seigneur? Alors, ce n'est pas l'histoire de « je me pince et ça fait du bien quand ça s'arrête ». Non, parce que les temps sont durs pour tout le monde. Et je regarde les visages et je peux dire sur beaucoup de visages que, et définir quelques temps de leur existence avec qui que j'ai partagé et qui a été dur. Et les temps, la semaine prochaine, il y aura des temps durs. Si vous n'avez jamais fait d'erreur dans votre existence, comment pourrez-vous savoir à quel point Dieu vous aime? Si vous n'avez jamais manqué d'argent, comment pouvez-vous savoir qu'en Christ, les bénédictions sont inépuisables? Si vous n'avez jamais traversé de temps difficiles dans votre existence, comment pourrez-vous savoir que Dieu vous aide toujours à les traverser et qu'à ce moment, si nous lui faisons confiance, parfois, Dieu se laisse voir? Ce sont les mauvais jours qui nous donnent ces opportunités. les jours sont mauvais. Racheter le temps, c'est faire en sorte que ces jours mauvais nous apprennent quelque chose sur Dieu, sur nous-mêmes. Nous avons ici ensemble une opportunité extraordinaire que peu de gens finalement ont, de pouvoir partager cela, partager nos expériences, partager nos moments difficiles, partager nos moments de victoire aussi, partager nos peines. C'est pas pour nous extraire du quotidien et puis prendre un bon bol d'air frais spirituel comme si on atteignait la surface et puis pour replonger encore. C'est pas ça. Mais en fait, c'est pour nous aider à établir de nouvelles perspectives dans l'existence. Une nouvelle perspective pour la semaine à venir. Pour que la semaine à venir, on puisse avoir un sourire en se disant « Ah ouais, il peut se passer des choses. » Certains d'entre nous sont entrés dans cette salle fatigués, l'esprit embrumé par tous les problèmes de la semaine, des soucis plus ou moins important, espérant trouver ici un peu de repos, et puis il y en a d'autres qui sont rentrés ici gonflés à bloc. Et puis ils sont venus pour se réjouir, pour dire on va être ensemble, on va chanter, ça va être bon. Mais tous nous sommes ici parce que nous attendons quelque chose de ce moment. On attend quelqu'un dans ce moment que nous vivons. Et nous venons avec des expériences différentes, avec des émotions différentes, mais tous, on frappe à la même porte. Et il faut être conscient que ces 2 heures ensemble, le dimanche matin, peuvent avoir un impact disproportionné sur les 166 heures restantes de notre semaine. Il nous faut être dans l'attente de la rencontre. Et Ésaïe 55 utilise cette expression que j'aime, que je répète souvent, c'est d'avoir soif de cette rencontre. Soif du Dieu vivant, comme le dit le psalmiste, une biche assoiffée. Et Apocalypse 21:6 le dit aussi en ces termes, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. » Le texte nous dit aussi qu'il faut être des personnes reconnaissantes. Le verset 19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Une des raisons pour laquelle nous sommes ici ce matin, c'est pour louer le Seigneur. Et cette louange, elle n'est possible que si nous sommes animés d'un sentiment de gratitude, aussi petit soit-il, pour la semaine passée, ou pour les choses passées dans notre vie. Et moi, je ne sais pas si c'était comme ça quand vous étiez petit, mais ma maman me disait de dire merci à la dame. Dis merci à la dame. Et même quand ça ne me faisait pas plaisir, parce qu'elle me tendait un morceau de tarte à l'oignon, et que je n'aimais pas les oignons à l'époque, dis merci à la dame. Alors je disais merci, mais en y réfléchissant, ce merci était plus important pour moi que pour la dame. Parce que ce merci, il m'apprenait la gratitude. Même si je ne voyais pas pourquoi je devais dire merci pour me tendre une tarte que j'allais devoir manger alors que je ne l'aimais pas, mais c'était le geste, la gratitude devant le geste qui était fait de me tendre un morceau de tarte. Et la gratitude est d'abord importante pour ce qu'elle fait en nous, parce qu'elle va planter en nous un sens du bien-être, un esprit de reconnaissance et de bonne santé spirituelle. Quelqu'un qui remercie, c'est quelqu'un qui déjà entre dans le bien-être. Même si ça ne nous fait pas plaisir. C'est une attitude, une position dans la vie. Merci pour cette vie, Seigneur, même si je ne l'aime pas toujours, même si elle est difficile, même si elle m'a réservé quelques mauvaises surprises. Merci d'être vivant, Seigneur. Quand ma maman me faisait réciter mes leçons le matin au petit déjeuner en CM2, cela ne me faisait pas plaisir et je vois sa tête et à elle non plus. Hein ? Mais je rends grâce à Dieu pour la pression qu'elle m'a mise et qu'elle a su mettre à certains moments de ma vie où je m'égarais. Paul dit d'ailleurs, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu ? Si vous essayez de répondre honnêtement à cette question, qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu ? Ben, la réponse, c'est rien, rien. Toutes les bonnes choses que nous recevons, c'est Dieu qui nous les donne au bout du compte. Il y a des patients qui me disent, ah, alors, je dis, ben, je ne suis pas dans le besoin. Oui, mais vous avez fait des longues études, docteur, c'est normal. Je dis, oui, mais j'ai eu le privilège de faire de longues études. C'est un privilège que de pouvoir étudier, que de ne pas devoir se mettre au travail tout de suite, ou que d'avoir eu une pression nécessaire, juste suffisante, pas trop pour ne pas tomber, mais suffisante pour aller jusque là où je voulais aller. Nous les recevons, ces choses, par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas une reconnaissance dont je vous parle, telle que Bart Simpson qui dit « Cher Dieu, nous avons nous-mêmes payé pour ces choses, alors merci pour rien. » Vous rigolez, mais quelquefois, c'est un petit peu comme ça. Hein, c'est le gars qui gagne au loto et il dit « Il y a une justice quand même. » Voilà. Mais on peut avoir dans la vie ce raisonnement-là. Ben, je l'ai quand même mérité, quoi. J'ai quand même mérité. J'ai travaillé pour ça. J'ai travaillé pour ça. Non, certainement, mais qu'est-ce qu'on mérite finalement ? Toute joie de l'esprit parvenue à un certain degré va s'exprimer par le chant. Alors ça peut prendre, vous dites, ben, je ne sais pas chanter le chant ou la poésie ou une manière de le dire. Et cette joie ne peut pas et ne doit pas se renfermer au-dedans, elle doit s'exprimer. Et c'est ce qu'on vient faire le dimanche matin, en prenant son essor dans des chants religieux. Ben, parfois, la musique, elle ne nous plaît pas trop, mais les paroles. Parfois, ben, l'assemblée, elle n'est pas trop dans le chant. Mais est-ce que toi, tu es dans le chant ? Et c'est cette joie qui se communique dans le chant, parce qu'on chante non pas seulement à Dieu, mais on chante pour son voisin, pour son frère qui est à côté, ou sa sœur, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on est ensemble et on est en train de louer notre Seigneur, de lui dire comme nous l'aimons. Et Pline, l'écrivain latin, écrivait à l'empereur romain Trajan, en parlant des chrétiens, il dit « Les chrétiens chantent entre eux des cantiques à Christ comme à leur Dieu ». Et c'est une remarque qu'il fait, il dit, c'est bizarre. Mais c'est l'expression de notre joie. Les premiers chrétiens se servaient probablement des psaumes, de la Bible, auxquels ben, l'Esprit donnait une nouvelle vie dans ces psaumes. Ils se les appropriaient pour eux, même s'ils n'étaient pas juifs, obligatoirement. Et quand on regarde l'histoire des chants, on s'aperçoit que les chants qu'on a sur... Bon, avant, c'était les ailes de la foi. Mais la plupart des chants, ils ont été composés dans une période de l'histoire qui était très courte. C'était un moment de renouveau. Un moment où l'Esprit venait, est venu et a permis à des gens de composer ces chants, d'écrire ces paroles, pour que nous les ayons aujourd'hui et qu'on puisse les chanter. Et si la joie n'est pas toujours dans le cœur quand on chante, c'est la reconnaissance pour toute chose qui pousse à ce qu'on appelle l'action de grâce. Et rendre grâce à Dieu notre Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, se consacrer à Dieu, comme Christ en sacrifice vivant et saint. Dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit, c'est offrir à Dieu, par Christ, tout ce qu'on a reçu de lui en Christ. Et donc le croyant est alors devant Dieu, identique à son Sauveur, comme Jésus, par le sang de Jésus, et en sorte que notre rapport avec Dieu, C'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est la prière, c'est la confiance, c'est l'amour. Parce que toutes ces choses, elles ont Christ comme médiateur. Colossiens 3:16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Rick Joyner, un auteur qui a écrit le livre La Moisson et Le Dernier Assaut, parle dans Le Dernier Assaut de la louange qui guérit les cœurs. Et il décrit là cette montagne sainte avec, je ne sais pas si vous avez vu, j'aime toujours ces, dans le Seigneur des Anneaux ou alors le Hobbit, dans le combat, quand on pense que tout est foutu, hein, ils sont en train de perdre, et tout à coup, qu'est-ce qu'on voit arriver? Les aigles. Ces grands aigles magnifiques qui arrivent. Et lui décrit ces aigles aussi, ces aigles qui volent, mais alors quand on les regarde dans le ciel, ce sont des aigles, ils sont pleins d'or, ils brillent dans le soleil. Et puis on voit cet aigle, et en fait cet aigle et ces aigles, ce sont l'âme des saints qui luttent avec l'ensemble des croyants. Il est difficile de les regarder fixement parce qu'ils brillent comme de l'or. Mais quand un aigle se pose à côté de vous, vous le regardez, et puis vous regardez bien, et puis vous voyez là, sur son corps, plein de cicatrices, en fait. Et ces cicatrices, ce sont les blessures qu'ils ont eues en combattant les forces du mal, souvent blessées par les flèches des adversaires que sont le mensonge, la calomnie, les faux témoignages. Et lorsqu'ils sont blessés, ils reviennent à la montagne, ils louent l'Éternel et ces blessures sont réparées avec de l'or. Ce sont elles qui donnent cet aspect brillant et glorieux à leur corps, les blessures. La louange me guérit, la louange me transforme. Elle transforme mes doutes, elle transforme mes épreuves, elle transforme mes blessures, mes chutes. Et elle transforme même mon péché en un sujet de gloire pour Dieu. Il y a un célèbre artiste japonais, on va le faire différemment si vous n'avez pas compris, un artiste japonais du XVIIIe siècle qui s'appelait Akuzai et qui avait fait une peinture splendide sur un vase. Et puis un jour, quelqu'un fit tomber ce vase. Et lentement, il va recoller les morceaux et entre chaque ligne de colle, il va glisser un fil d'or. Et le vase devint encore plus beau qu'avant. Et il prit encore plus de valeur. Et on peut comparer cela avec le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Quand il répare les blessures causées par notre péché, par le péché des autres, par les aléas de l'existence, par les difficultés. Le pardon de Dieu, il ne va pas seulement les effacer, comme si de rien n'était arrivé, mais il va les transformer comme sujet de gloire pour lui. Et Dieu prend ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait, pour en faire du nouveau, avec sa propre beauté. Alors, je n'ai pas le même regard sur Tarsis, quand elle loue Dieu, que sur une autre personne, car son handicap met en relief sa louange. Je ne regarde pas la fidélité et la reconnaissance d'Hubert et Yvette ou de Richard et Marie qui ont perdu un enfant de la même manière que pour d'autres, parce que la souffrance du manque met en relief leur fidélité. Et je ne regarde plus Jean-Pierre et Rosa de la même manière depuis que leur maison et tous leurs biens ont brûlé et que leur bouche, alors que tout avait brûlé, ils étaient là à l'église et ils chantaient à Dieu des louanges, car les mots étaient alors mis en relief par leur peine. Et on pourrait dire de chacun d'entre nous, ici, des choses, des blessures, des souffrances, des péchés qui sont tout à coup transformés et qui font que la louange, que la fidélité, eh ben, elle est transformée dans nos regards à nous. Je ne sais pas comment je pourrais me priver de vous, de me priver de mes frères et sœurs. c'est d'avoir soif. Soyez remplis, non pas de vin, vin de l'esprit. Non pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Moi personnellement, j'aime le vin. J'aime boire un verre de vin et j'aime déguster un verre de vin quand une bonne bouteille qui sort de la cave, on la déboussière. Moi, je n'ai pas de cave, mais quand ça arrive et que j'ai l'occasion de déguster un verre de vin avec quelqu'un, et puis, bon, j'y connais rien, mais on est entre amis et puis on commence à essayer de le décrire, à faire semblant. Mais rien que le faire semblant, c'est bon. On décrit sa robe, son bouquet, son aspect en bouche. Et ça fait sourire certains parce qu'on a tous, on a fait un jour, qui ont apprécié un peu le vin, fait cette expérience-là. Et j'aime aussi la légère ivresse qu'un verre de vin procure. Je parle d'une légère ivresse, je ne parle pas d'être sous ou dans la débauche, je parle de cette légère ivresse, juste un verre, qui tout à coup, ça détend l'atmosphère, on est ensemble, on est bien, et les langues se délient. Et on passe un bon moment. Soyez remplis non pas de vin, mais de l'esprit. Parce que la comparaison que l'apôtre Paul fait de l'ivresse, c'est l'ivresse de l'esprit. C'est cette bonne ivresse, vous savez, c'est d'être bien ensemble. C'est l'esprit qui met ça dans nos cœurs. Quand on se met à chanter, tout à coup, spontanément, on est bien. Oh, qu'est-ce qu'on est, c'est bon d'être ensemble. Ou quand on se met à prier, tout à coup, on entend une prière qui s'élève et puis on se dit, ah, oh, c'est ça, c'est ma prière, c'est ça que j'avais besoin, c'est ça. Ou un message, ou une parole, tout à coup, voilà, c'est cette ivresse-là, ce qui nous fait frissonner à un moment. Soyez remplis, non pas de vin, mais de l'esprit. Et c'est un commandement, comme l'âme a le rappelé notre frère Étienne, Dieu ne donne jamais un commandement sans donner avec lui tout ce qui est nécessaire pour y obéir. C'est possible d'être rempli de l'esprit. Et puis c'est au pluriel que c'est donné. Hein ? C'est à nous tous, c'est quand on est ensemble. C'est aussi une forme passive, c'est un impératif qui signifie autoriser, donner la possibilité que cette chose arrive. Et ce n'est pas une technique qu'il est en train de nous donner, Paul. Hein. Il n'y a rien que nous puissions faire pour recevoir l'esprit et l'esprit en abondance que juste d'en avoir soif. Soif. Luc 11, c'est Jésus qui dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Paul utilise un temps aussi là qui serait comme un présent progressif dans le sens où l'action se poursuit dans le temps. Ce n'est pas à un moment donné, mais ça se poursuit. Ça se poursuit. On peut avoir reçu l'Esprit à un moment donné et Paul nous encourage à être rempli encore plus de l'Esprit. Et on voit ça, cette expérience vécue par les apôtres dans les Actes des Apôtres. Hein ? On les voit, ils reçoivent l'Esprit et puis ils reçoivent encore et encore, ils reçoivent la plénitude de l'Esprit. C'est comme dirait Pierre, c'est la marche. C'est la marche. C'est comme un ballon de baudruche qu'on gonflerait. Je suis plein, je suis rempli. Si nous connaissions les montagnes que Christ veut nous faire franchir, nous chercherions de tout notre cœur à être remplis du Saint-Esprit. Plus de son esprit. On chercherait toutes les opportunités pour recevoir plus de son esprit. Et peut-être vous êtes tombé plusieurs fois cette semaine devant les tentations. Peut-être vous êtes-vous égaré pour la xème fois et vous vous dites « Purée, qu'est-ce que je suis nul ?» C'est vrai que t'es nul. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Alors écoutez cette histoire parce que cette histoire, elle est pour vous. Je vais employer un vocabulaire qui va pas être très joli, mais je vais juste vous dire l'histoire telle que Guy Gilbert, un prêtre un curé qui travaille parmi les loubards la raconte. C'est une histoire vraie. Ces gens, 20 ans, avaient fait une saloperie immonde à ses parents. Vous savez, la saloperie dont une famille ne se remet pas en général. Alors son père lui dit « Jean, fous le camp. ne remet plus jamais les pieds à la maison. Et Jean est parti, la mort dans l'âme. Quelques semaines plus tard, il se dit « J'ai été la pire des ordures. Je vais demander pardon à mon vieux. » Il écrit à son père « Papa, je te demande pardon. J'étais le pire des pourris et des salauds. Mais je t'en prie, peux-tu me pardonner ?» Je ne te mets pas mon adresse sur l'enveloppe. Simplement, si tu me pardonnes, je t'en prie, mets un foulard blanc sur le pommier qui est devant la maison. Tu sais, la longue allée de pommiers qui conduit à la maison. Sur le dernier pommier, papa, mets un foulard blanc si tu me pardonnes. Je saurai que je peux revenir à la maison. Plein d'angoisse, il se dit, jamais papa ne mettra ce foulard blanc. Et il appelle son meilleur ami et dit, viens avec moi, je vais conduire jusqu'à 500 mètres de la maison et je te passerai le volant. Je fermerai les yeux, lentement tu descendras l'allée bordée de pommiers. Si tu vois le foulard blanc sur le dernier pommier devant la maison, je bondirai. Sinon je garderai les yeux fermés, tu repartiras et je ne reviendrai plus jamais. Ainsi dit, ainsi fait, à 500 mètres de la maison, Jean passe le volant à son ami et ferme les yeux. Lentement la voiture descend l'allée des pommiers, puis s'arrête. Jean, toujours les yeux fermés, dit « Est-ce que mon père a mis un foulard blanc dans le pommier devant la maison ?» L'ami répond « Non. » Il y en a des centaines de foulards blancs sur tous les pommiers qui conduisent à la maison. Si vous voulez revenir à la maison de votre père, Dieu, notre Père, vous attend. Avec tous les foulards blancs qui sont attachés dehors, dedans. Et vous savez, c'est qui ces foulards blancs ? Ben, c'est nous. Nous, vos frères et sœurs. C'est ça la réalité de l'Église. De pouvoir vivre ce pardon entre nous. L'expérimenter. Et que l'erreur, comme disait rappelé Richard, le péché, là où le péché abonde, bah la grâce surabonde. Bien sûr, on ne va pas pécher pour ça. Mais la grâce surabonde. Et c'est ça qui va nous rendre plus forts. Si vous me demandez si on peut être chrétien sans l'Église, je vous répondrai que dans mon cas, ce serait très difficile. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour l'Église que tu nous donnes, pour les frères et sœurs, pour l'Esprit que tu veux nous donner en abondance. Merci pour ton sacrifice, pour cette mort sur la croix pour nous. Merci de nous aimer tels que nous sommes. Merci de nous transformer. Merci pour les perspectives de vie que tu nous donnes. Perspectives ici-bas, Seigneur, mais perspective aussi là-haut auprès de toi, pour toujours. Bénis-nous ce matin, Seigneur, bénis-nous, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je n'ai aucune confiance dans ma volonté et dans ma force pour cette semaine à venir, mais j'ai confiance que le Saint-Esprit peut tout en moi et transformer mes défaites de la semaine dernière en victoire pour demain.